Le magazine des Nations Unies.
Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à ce magazine des Nations Unies. Voici les titres de cette émission. Célébration le 29 mai de la journée des casques bleus. Depuis 65 ans, plus de 3100 casques bleus sont tombés dans les missions de maintien de la paix à travers le monde, dont 145 en RDC au service de la MONUSCO. Les Nations Unies ont donc rendu hommage mercredi dernier à tous ces héros de la paix. Les détails de la journée dans ce magazine. Visite de la sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée des affaires humanitaires en RDC. L'urgence dans l'est de la RDC est une urgence de longue durée et de haute complexité. Ce sont les propos tenus par Kyunhwa Kang lors de sa visite d'évaluation dans le pays. Vous suivrez l'intégralité de ses propos tout à l'heure. Enfin, une autre hôte de marque de la RDC la semaine dernière, c'est la directrice adjointe de l'UNICEF. Gaëta Raogulpa a effectué une mission de travail du 30 mai au 1er juin. Lors de son séjour, cette dernière a participé au lancement du plan gouvernemental de la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. Un expert de l'UNICEF en RDC va cerner ces concepts dans un entretien avec Honoré Missinga dans un instant. A tout de suite.
Magazine des Nations Unies, actualité de la semaine.
Encore une fois, bonjour et bon dimanche chez vous. La communauté internationale célèbre le 29 mai de chaque année la journée internationale des casques bleus, une journée proclamée par l'Assemblée générale de l'ONU en décembre 2002. En RDC, la tradition a été respectée. La MONUSCO a organisé des manifestations pour commémorer cette journée et immortaliser des hommes et des femmes morts au service du maintien de la paix en République démocratique du Congo. Le point avec vous, Honoré Missinga.
Ils sont au total 145 casques bleus dont les noms sont désormais inscrits sur une plaquette commémorative au quartier général de la MONUSCO à Kinshasa. En cette journée du 29 mai, dans une atmosphère de recueillement, ceux de leurs collègues encore en vie sont venus assister à l'inauguration de la plaquette. Le général Abdallah Wafi, représentant spécial adjoint à y, préside la manifestation.
La cérémonie qui nous réunit en ce jour de célébration de la journée des casques bleus est dédiée à la mémoire de nos collègues militaires et civils qui ont perdu la vie alors qu'ils étaient en mission et en service à la MONU, aujourd'hui devenue la MONUSCO. Ces militaires et civils ont perdu la vie alors qu'ils servaient sous le drapeau des Nations Unies. Ils ont perdu la vie au service de la paix.
Plus tôt dans la journée, la célébration de la journée des casques bleus est d'abord diplomatique. Le gouvernement congolais s'est associé à la MONUSCO pour rendre hommage aux soldats de la paix. La cérémonie se déroule à la base du contingent ghanéen à Kinshasa. Elle est sanctionnée notamment par un défilé militaire et deux discours officiels dans lesquels les deux partenaires se font des engagements mutuels. Le général Abdallah Wafi pour la MONUSCO.
Pour ce qui est du maintien de la paix en République démocratique du Congo, nous sommes à une période charnière pour relever les nombreux défis à la paix et à la stabilité en RDC et en particulier dans l'est du territoire. Avec la résolution 2098, la MONUSCO, en partenariat avec l'équipe pays, les agences spécialisées des Nations Unies, va continuer à apporter son appui au gouvernement congolais afin de résoudre l'insécurité entretenue à l'est par les nombreux groupes armés, mais aussi de restaurer l'autorité de l'État dans toutes les zones affectées par les conflits et promouvoir ainsi le retour des populations déplacées dans leur village d'origine.
Message bien copié par le représentant du gouvernement, le vice-ministre de la coopération internationale, Ismas Mabengo.
C'est pourquoi le gouvernement de la République démocratique du Congo informe la communauté internationale qui ne ménagement aucun effort pour que la noble mission des casques bleus, celle de ramener la paix et de contribuer à défendre l'intégrité de notre territoire aux côtés de nos forces armées, puisse dans un temps raisonnable se réaliser avec succès pour le grand bien de tous.
Et pour lier l'utile à l'agréable, des manifestations culturelles et sportives ont également agrémenté cette journée du 29 mai, notamment à la prison d'Indolo et à la base de la police de la MONUSCO à Alcatel.
Magazine des Nations Unies, décryptage.
Le ministre congolais de la Santé a lancé vendredi la stratégie nationale d'accélération de la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile. En mission en RDC, la directrice générale adjointe du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, Gaëtta Rao Gupta, a participé à cette action. Le magazine des Nations Unies reçoit pour cela le docteur Alphonse Toko du bureau de l'UNICEF RDC. Il répond aux questions d'Honoré Missenga Kalala dans la rubrique décryptage.
Docteur Alphonse Toko, bonjour.
Bonjour.
Docteur, expliquez-nous qu'est-ce que vous entendez par mortalité maternelle et infanto-juvénile et pourquoi, docteur, ce rapport entre les deux taux, le taux de mortalité maternelle et celui des enfants et des jeunes.
Merci de m'avoir accordé cette opportunité de vous parler du passage de notre directrice adjointe en RDC. Elle est venue accompagner les efforts du gouvernement congolais dans cette lutte. La République démocratique du Congo est le troisième pays au monde qui contribue le plus à la mortalité des enfants de moins de 5 ans, après l'Inde et le Nigeria. Ces taux sont respectivement pour la mortalité infanto-juvénile à 158 pour 1000, pour la mortalité infantile à 97 pour 1000 et pour la mortalité néonatale à 42 pour 1000. Ce qui correspond à peu près à 465 décès d'enfants avant leur cinquième anniversaire chaque année. Et c'est énorme.
Docteur, quelle est la différence entre le taux de mortalité infanto-juvénile et néonatale?
La mortalité néonatale, c'est celle qui survient au moment de la naissance. On dit mortalité néonatale précoce quand c'est 0 à 7 jours et tardive entre 7 et 14 jours. Mais si on prend la mortalité néonatale des 0 à 14 jours, elle reste quand même assez forte en RDC. 42 pour 1000 enfants meurent pendant cette période-là. Ça veut dire que les conditions dans lesquelles ces enfants arrivent au monde ne sont pas bonnes. Il y a les infections, il y a l'asphyxie, mais il y a aussi des enfants qui naissent avec ce qu'on appelle l'hypothermie, c'est-à-dire qui naissent avec une température qui n'est pas adéquate. Je voudrais rappeler que le ministre de la Santé a assisté l'année dernière, en juin, à un forum international à Washington qui consistait à justement renouveler l'appel de pays et voir comment on peut aider le pays qui tire en bas le monde entier en matière de mortalité maternelle et infantile, comment on peut les aider à accélérer la réduction de cette mortalité. Après cette réunion, il s'est retrouvé en début de cette année aussi à Addis Abeba autour des autres ministres de pays africains pour examiner encore cette situation qui est assez préoccupante pour un certain nombre de pays. À l'issue de tous ces grands forums, le ministre de la Santé a pris l'engagement au nom de la République démocratique du Congo d'accélérer la réduction de la mortalité de moins de 5 ans et la mortalité des femmes au moment de donner la naissance. Je voudrais rappeler également en matière de la mortalité maternelle qu'elle est vraiment assez importante et que la RDC compte parmi les 6 pays qui tirent aussi cette mortalité en bas. Aujourd'hui, malgré les efforts réalisés par le pays entre 90 et 2010, où cette mortalité a été réduite de 42%, passant de 930 pour 100 000 à 540 décès pour 100 000, les efforts qui sont réalisés restent quand même assez faibles.
Oui, alors docteur, l'objectif pour l'UNICEF et pour le gouvernement, bien sûr, c'est de réduire tous ces taux, mais vous voulez les réduire à combien et dans quelle échéance?
En fait, le gouvernement a défini un cadre de réduction, d'accélération de la réduction de la mortalité. Par rapport à ce cadre, il est prévu de sauver d'ici à 2015 430 000 vies d'enfants de moins de 5 ans et 7 900 mères.
Donc dans 2 ans.
Dans 2 ans et demi.
Vous pensez que ça peut être réalisé?
Oui, avec tous les efforts de partenaires et du gouvernement, ça peut se réaliser. Parce qu'en réalité, cette mortalité est due à des causes évitables. Par exemple, pour l'enfant, qu'est-ce qui tue nos enfants? C'est la rougeole, c'est le paludisme, c'est la diarrhée, c'est l'infection respiratoire aiguë. C'est des méthodes simples connues de tous, mais par négligence, par méconnaissance de la part des parents, que cette mortalité augmente. Et donc, en traçant un cadre, en prenant un certain nombre de mesures, notamment en réduire la barrière géographique à l'accès aux soins, la barrière financière à l'accès aux soins, en mettant à la disposition des populations des médicaments et des conditions sanitaires adéquates, on pense qu'on peut réduire drastiquement cette mortalité.
Oui, quelle va être la part de l'UNICEF dans ses actions à entreprendre?
Il est difficile de donner la part exclusive de l'UNICEF. L'UNICEF est une agence des Nations Unies qui travaille avec d'autres partenaires, l'OMS, le FINOAP et tant d'autres, aussi bien les partenaires techniques et financiers du ministère, bilatéraux, des bilatéraux comme des multilatéraux. Mais pour parler de l'UNICEF, vous savez, notre cheval de bataille, c'est la vaccination. Dans ces cadres-là également, nous nous associons aux autres partenaires pour améliorer les conditions d'accès aux soins et réduire en même temps la barrière financière. Par exemple, nous sommes en train de soutenir l'idée du gouvernement à lancer des kits familiaux qui consistent à mettre à la disposition des familles des médicaments qui peuvent sauver la vie. Quand un enfant fait la diarrhée la nuit, par exemple, la mère peut recourir directement à un sachet de SRO avec du zinc et peut sauver la vie de l'enfant. On peut donner de la paracétamol à domicile de qualité pour sauver la vie de l'enfant. Alors cette initiative des kits familiaux mettra également à terme à la disposition des mères d'un coupon qui peut permettre d'avoir accès dans un centre de santé. Et ces coupons, en fait, c'est une subvention au coût de prestation qui peut aller jusqu'à 80%. Là où le maire devrait payer 1000 francs pour des soins des enfants, et ne paierait que 200 francs parce que les 800 francs sont déjà pris en charge.
Par l'UNICEF?
Je dis par l'ensemble de la communauté et le gouvernement. L'UNICEF seul ne peut pas tout faire. Nous avons un avantage comparatif dans l'accompagnement des efforts du gouvernement pour rendre le vaccin, je vais dire la gamme de vaccins à travers tout le pays et avec l'OMS, mais il est difficile d'isoler l'action de l'UNICEF dans cet effort. C'est vraiment l'effort de tous les partenaires.
Docteur Alphonse Otoko, merci.
Les acteurs de la microfinance du Sud Kivu en formation de 3 semaines depuis lundi 27 mai dernier. Une formation organisée par le Fonds de promotion microfinance avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement et de la Banque mondiale. L'une des matières retenues à cette formation est comment calculer le taux d'intérêt de manière à ne pas asphyxier les bénéficiaires de crédit avec des taxes exorbitantes. Secteur d'éducation maintenant, l'Institut technique agro-vivrière ITAV Tselé à Kinshasa sera bientôt clôturé. Le ministre de l'EPSP a procédé à la pose de la première pierre pour la construction d'un mur de clôture de cet établissement. C'était mardi le 28 mai dernier dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet BEAR UNESCO RDC. Ce projet Better Education for Africa's Rise ou Meilleure éducation pour le développement de l'Afrique vise le renforcement des capacités pédagogiques et matérielles de 2 écoles de formation professionnelle à Kinshasa, ITAV Tselé et ITP Bumbu. 30 000 sacs de farine de maïs, soit 750 tonnes pour compléter les rations alimentaires destinées aux déplacés de guerre au Katanga. C'est un don du gouvernement katangais que le PAM salue. Il couvrira les besoins de 61 000 personnes pendant un mois. Ce genre de contribution témoigne de l'engagement des autorités congolaises à venir en aide aux populations vulnérables du pays et constitue un signal important à tous les donateurs potentiels. C'est ce qu'a souligné Martin Olsen, directeur pays du Programme alimentaire mondial. Notre invité de ce dimanche, c'est le lieutenant-colonel Bass. À l'occasion de la journée internationale des casques bleus, le porte-parole militaire de la MONUSCO a accordé mercredi une interview à Radio Okapi où il explique le sens de la célébration de cette journée. Le magazine des Nations Unies revient sur cette interview réalisée par Richard Kamunga.
Lieutenant-colonel Félix Bass, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes porte-parole militaire de la MONUSCO. Comme chaque année, ce mercredi 29 mai 2013, on commémore la journée des soldats de la paix, autrement appelée casque bleu. Quelle signification cette journée rêve-t-elle?
Merci pour votre question. Je commencerai tout simplement par dire que la Journée internationale des casques bleus de l'ONU, commémorée chaque année le 29 mai, conformément à la résolution 57/129, rend hommage pour leur professionnalisme, leur dévouement et leur courage aux 111 000 casques bleus, hommes et femmes, qui ont servi et continuent de servir dans les 15 opérations de maintien de la paix de l'ONU. Donc c'est aussi l'occasion d'honorer la mémoire de plus de 3100 casques bleus de l'ONU qui ont perdu la vie au service de la cause de la paix, dont 111 hommes et femmes en 2002. Pour nous, cette journée constitue aussi une occasion pour rendre un hommage solennel à tous ceux qui sont tombés en service et témoignons notre solidarité aux quelques 111 000 soldats et policiers originaires de 116 pays qui sont sur le terrain et continuons de faire évoluer nos opérations pour mieux protéger et mieux aider les civils qui en ont besoin.
Peut-on connaître exactement la mission dévolue au casque bleu ?
Oui, la mission dévolue au casque bleu des Nations Unies est d'abord et avant tout, une mission de protection des populations civiles en République démocratique du Congo, conformément à la résolution 2053 des Nations Unies, mais ensuite aussi par la résolution 2098 des Nations Unies. D'ailleurs, à ce titre, ce nouveau mandat qui nous a été attribué par le Conseil de sécurité des Nations Unies depuis le mois dernier nous confère, en plus de la protection des populations civiles, l'autorisation de renforcer la paix par le déploiement d'une brigade d'intervention au profit des populations civiles de la République démocratique du Congo. En d'autres termes, nous pouvons dire que la mission des casques bleus, c'est d'abord la protection des populations civiles, mais aussi et surtout maintenant la neutralisation des groupes armés par la conduite d'opérations offensives. Mais additionnellement à tout cela, nous pouvons dire que notre mission consiste à apporter un soutien conséquent aux forces armées de la République démocratique du Congo, à aider à la restauration de l'autorité de l'État à travers tout le pays, mais aussi et surtout à participer de manière effective à la réforme du secteur de sécurité des forces armées de la République démocratique du Congo.
Au-delà de l'aspect sécuritaire de leur service qui les pousse à protéger les civils dans les zones en conflit, les casques bleus interviennent-ils dans l'humanitaire ?
Bien sûr, sans faire de l'humanitaire en soi, les casques bleus contribuent beaucoup aux opérations d'assistance humanitaire, notamment en fournissant des escortes et en sécurisant tous les convois à caractère humanitaire destiné aux populations qui sont en détresse, aux populations qui sont dans le besoin, mais aussi, parallèlement à nos missions opérationnelles sur le terrain, nous contribuons à, premièrement, apporter un peu plus de soulagement aux souffrances des populations civiles, notamment par la conduite de nos campagnes journalières ou hebdomadaires médicales au profit des populations locales, mais aussi nous apportons notre contribution aux populations civiles qui sont dans le besoin en leur fournissant toute l'aide humanitaire, en leur fournissant tout le soutien dont ils ont besoin, mais aussi à travers nos projets à impact rapide, nous procédons à l'édification de certaines infrastructures de base, certaines infrastructures nécessaires à la vie des populations civiles, afin de leur apporter un peu plus de réconfort dans les souffrances qu'ils vivent quotidiennement dans l'Est de la République démocratique du Congo.
La dernière question, lieutenant-colonel Félix Bass, quel message les casques bleus adressent-ils à la population congolaise en ces jours où ils commémorent leur journée ?
D'abord, nous devons rendre un hommage appuyé aux populations congolaises. Les populations congolaises, particulièrement celles de l'Est, qui, de manière quotidienne, sont soumises aux activités négatives des groupes armés qui, comme vous le savez, essaiment cette partie du territoire congolais. D'abord, un message de remerciement, parce que pour tout le soutien que ces populations civiles nous accordent de manière quotidienne dans la conduite de notre mission, un message aussi de prospérité, un message d'espoir, parce que les efforts consécutifs qui sont fournis aussi bien par la communauté internationale que par les autorités nationales congolaises de ce pays, que par d'autres pays partenaires ou d'autres groupements sociaux pour essayer d'apporter un peu plus de paix à ces populations civiles qui en ont besoin. Mais comme je le dis, je réitère encore mon message d'espoir pour dire à toutes ces populations congolaises pour lesquelles les casques bleus s'engagent avec détermination afin de leur réaliser un environnement sécuritaire beaucoup plus accueillant. Donc nous voulons tout simplement dire à toutes ces populations congolaises au nom des Nations Unies que l'espoir est encore permis.
Lieutenant-colonel Félix Basse, merci.
Je vous remercie.
La sous-secrétaire générale des Nations Unies chargée des affaires humanitaires était elle aussi en visite en RDC du 27 au 30 mai. Kyung-Wa Kang, également coordonnatrice adjointe des secours d'urgence, était donc en mission d'évaluation de la situation humanitaire, notamment dans l'est du pays. Mercredi et jeudi dernier, elle était au sud Kivu. Écoutez ses premières impressions sur la situation humanitaire dans l'est de la RDC après un passage à Mulamba, à Walungu, où elle a vu des déplacés de guerre. Elle est au micro de Radio Okapi.
L'urgence ici est une urgence de longue durée, une urgence de haute complexité, une urgence qui ne doit pas être négligée par la communauté internationale. C'est une urgence qui a été rendue encore plus vive par les activités du groupe armé M23 et ça a provoqué des déplacements de plus de 100 000 personnes sur les 2,6 millions de déplacés dans toute la RDC. La plupart d'entre eux sont dans l'équipe. Les retombées du conflit armé, c'est le défi principal pour les acteurs humanitaires pour venir en aide aux vulnérables. On ne pourrait pas tout faire, mais on a trouvé une balance pour aller très vite dans l'assistance qu'il faut, notamment enregistrer les déplacés, les activités d'eau, d'hygiène et assainissement, donner la base minimum de santé de qualité et l'appui d'urgence parce qu'ils sont venus les mains vides. Les ressources pour l'action humanitaire en RDC est une grande préoccupation qui demande de plaidoyer chez les bailleurs de fonds et garder la RDC sur l'agenda.
Magazine des Nations Unies, portrait du jour.
Bonjour, je suis le commandant Issa Koulibaly, des forces armées du Mali, actuellement en service à la MONUSCO. Je suis marié, père de 4 enfants, 3 filles et un garçon. Et ma dernière fille est née il y a juste 4 jours, à mon absence bien sûr. En ce qui concerne ma carrière militaire, j'ai commencé par le prétendu militaire au Mali pour finir à l'école prétendue nationale militaire en France. J'ai fait ensuite l'EMIA au Mali et pour aller faire le cours d'état-major junior au Nigeria. J'ai fait le cours d'état-major même aux États-Unis à Leavenworth et je prépare actuellement le cours de guerre. Je travaille avec la MONUSCO depuis le 4 février 2012 et j'étais venu normalement pour un an, j'ai une prolongation d'une autre année et je vais terminer normalement en février 2014. Je suis l'assistant militaire du chef d'état-major de la MONUSCO. Mes fonctions vont de la signature de tous les documents administratifs de la force qui passent par le chef d'état-major jusqu'aux forces commandées. Pour un military assistant, un assistant militaire, il s'agit de préparer tous les documents administratifs du chef d'état-major, conseiller le chef d'état-major sur les décisions opérationnelles, préparer tout ce qu'il y a comme intervention du chef d'état-major au sein de la force. Si on n'est pas dans le travail comme passe-temps, nous rencontrons beaucoup entre nous, venant d'autres officiers venant de différents pays, pour échanger sur les différentes expériences qu'on a eu à faire. Et j'aime bien la musique. Je fais le sport naturellement parce que je suis militaire, mais je suis plutôt penché pour la musique. Depuis que je suis venu au Congo, j'apprécie la culture congolaise. Je ne vois pas trop de différence entre ce qui se passe à Bamako et à Kinshasa. Et je me suis fait beaucoup d'amis, je pense continuer à faire encore des amis jusqu'à mon départ. Cette mission, je pense, m'aura permis d'avoir une certaine expérience pour pouvoir être plus à l'aise dans le travail au sein de la future mission des Nations Unies qui sera déployée dans le Mali. Et j'espère pouvoir être d'un atout sérieux pour les forces armées maliennes dans le futur. Merci.
Magazine des Nations Unies, question aux Nations Unies.
Bonjour Radio Okapi et le magazine des Nations Unies. Je suis Jean-Pierre Moninga Mateso. Selon les échos en provenance de Lubumbashi, au Katanga, plusieurs réfugiés angolais candidats au rapatriement volontaire avaient vendu leurs biens et certains même leurs maisons en prévision de la clause de cessation de leur statut de réfugiés, entrée en vigueur le 30 juin 2012. Aujourd'hui, ces Angolais ne savent à quel sein se vouer. Ils ne sont ni réfugiés, ni résidents. À quand leur appartiennent ? Question adressée au HR. Merci.
Merci Jean-Pierre Moulinga Matesso. Nous avons contacté pour vous Gert Westerveen. Il est assistant du représentant régional du HCR chargé de la protection. Voici sa réponse.
Effectivement, le 30 juin 2012, les mouvements de rapatriement ont cessé. Ça a été fait à la demande du gouvernement angolais. L'HCR était à ce moment prêt de continuer tous les convois de la RDC vers l'Angola, mais c'est le gouvernement angolais qui a demandé de cesser ce mouvement. Depuis lors, on a eu des contacts avec le gouvernement angolais à plusieurs reprises au plus haut niveau, en demandant qu'ils nous fassent savoir leur plan pour recommencer le rapatriement, parce qu'il y a encore 23 000 ex-réfugiés angolais qui veulent encore retourner chez eux. Malheureusement, jusqu'à ce moment, le gouvernement angolais n'a pas communiqué comment il veut reprendre ce mouvement de rapatriement. Malgré tous nos efforts d'obtenir une réponse, donc nous sommes tous à l'attente d'une initiative du gouvernement angolais pour nous dire comment et quand on peut reprendre le rapatriement.
Le magazine des Nations Unies. Tout sur les faits saillants des activités des agences du système des Nations Unies en RDC. Chaque dimanche de 10h à 10h30, heure de Kinshasa, sur Radio Capi.
À vos carnets pour les rendez-vous de la semaine, deux dates à retenir. Mardi 4 juin 2013, ce sera la journée internationale des enfants victimes innocents de l'agression. Et un jour après, c'est-à-dire le mercredi 5 juin, ce sera la journée mondiale de l'environnement. De cette émission, merci de l'avoir suivi. Moi, Mila Kingwini, j'étais à la présentation avec l'assistance technique de Patrick Yassongwa du côté de la régie. Nicole Ngaka en a assuré la supervision. Honoré Missenga était à la coordination et au portage de ce magazine. Vous pouvez réécouter cette émission sur notre site internet www.radiocapi.net. Si vous avez une préoccupation par rapport à cette émission, vous pouvez toujours nous contacter en nous appelant au 082 30 76 630 ou laisser votre question sous forme de commentaire sur notre site internet en dessous de l'émission. À dimanche prochain et excellente journée dominicale à tous.